une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Les projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
Bonjour Olivier Hérard, tu es directeur du syndicat mixte du Mont d'Or et responsable ingénierie de transition à la station de ski de Métabier. Pour situer géographiquement nos auditeurs et nos auditrices, le territoire se trouve à peu près entre Besançon et Lausanne en Suisse. Au-delà de la géographie, on peut aussi dire que c'est un territoire en transition, en terre de transition, qui subit le changement climatique de plein fouet, mais dont l'économie dépend encore principalement du tourisme et de la neige. Donc, tu vas nous raconter comment vous vous êtes engagé petit à petit dans cette ingénierie de transition, comme vous dites. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter aussi ce qu'est le syndicat mixte du Mont d'Or ?
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur du syndicat mixte du Mont d'Or. Je suis fonctionnaire territorial. Je suis ingénieur en chef de la fonction publique territoriale. Une fonction publique que j'ai intégrée il y a maintenant 25 ans, ça ne me rajeunit pas. Après une petite expérience dans le privé en bureau d'études environnement, et moi j'ai fait des études en géologie, je me suis spécialisé en glaciologie, j'ai eu l'occasion de faire des études dans les Andes boliviennes surtout. Et puis retour en France, je me suis plutôt engagé dans la filière environnement et plus sur les thématiques de l'eau. Et j'ai intégré les collectivités plus sur ces sujets-là de gestion de l'eau. Je me suis occupé de services de l'eau, géré des infrastructures liées à l'eau. J'ai aussi après développé des politiques de préservation des rivières, de restauration de cours d'eau, et puis petit à petit de milieux naturels, etc. Et puis en 2006, parce que il y avait une volonté de relance du ski alpin à Métabier, il y avait le projet de neige de culture qui arrivait, et comme c'était un projet difficile, complexe, et qu'il y avait une entrée eau qui était forte, eh bien, en fait, je me suis vu confier ce projet-là. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis retrouvé en 2012 à la direction du syndicat, à piloter à la fois ce projet de neige de culture, et puis après, voilà. Donc, c'est un syndicat qui est une collectivité territoriale, un syndicat mixte. Donc, les syndicats mixtes regroupent des collectivités de nature différente, donc là en l'occurrence le département du Doubs et une communauté de communes qui s'appelle la communauté de communes des lacs et montagnes du Haut-Doubs, qui, comme tu l'as dit, est à la frontière avec la Suisse, dans le massif du Jura.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ce territoire? La première fois que je t'ai entendu raconter cette histoire, tu parlais notamment d'une identité régionale qui était très forte et très marquée par le ski alpin. Donc, comment ce territoire s'exprime?
Alors, c'est un territoire de moyenne montagne, hein, massif du Jura. Nous, spécifiquement, on se situe entre 900 et 1400 mètres. Donc, on est pas haut, hein, on est d'altitude vraiment moyenne. Il y a effectivement une histoire très liée avec le ski. Ça fait partie des territoires qui ont vu émerger le ski au début du XXe siècle. Et ça s'est très, très intensifié après la Seconde Guerre mondiale. Et je dirais que toutes les formes de ski étaient très importantes, et le ski alpin en a été une. Et puis petit à petit, le ski nordique aussi est devenu très important. En plus, alors, il y a eu des champions quelques champions jurassiens en alpin, mais dans un passé plus proche, on est surtout marqué par des champions jurassiens en nordique. Hein, le dernier en date, c'est Quentin Fillon-Maillet. Et nous, on a eu des champions olympiques en combiné nordique, comme Fabrice Guy, Jason Lamy-Chapuis, en biathlon aussi. Voilà. Donc, c'est un territoire qui est très marqué par l'activité, par le ski, de manière générale. C'est un territoire qui a des apparences de Scandinavie parfois. Donc, on est sur des faciès assez nordiques. Donc, voilà, on a un fort attachement. On dit qu'on a une identité plutôt nordique, mais avec effectivement un attachement à la fois au ski de fond et au ski alpin.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter toute l'histoire ? Alors, on peut peut-être pas tous les détails, évidemment, elle est un peu longue, dans le sens chronologique du terme, avant cette transition de la station de ski. Quelles ont été les étapes avant d'en arriver là ? Quels ont été peut-être les investissements, les risques d'endettement auxquels il a fallu se confronter avant de se décider à bifurquer ?
Alors, on va dire que le point de départ, on peut le situer en 2016. 2016, c'est une année charnière pour nous parce qu'en fait, on sortait, comme je l'ai dit dans ma présentation, moi, j'ai démarré sur le sujet en 2006 avec le dossier de Neige de Culture, avec une vraie envie politique de relance du ski alpin. Donc, 2006, je prends le dossier Neige de Culture. C'est très long à mettre en place puisqu'il y a énormément de choses à investiguer, notamment sur la ressource en eau. Donc, on arrive plutôt dans les années 2010-2011 à faire les études d'impact. Et à ce moment-là, bien sûr, la question climatique se pose. Est-il opportun de faire de la neige de culture en 2010 quand on pose ces dossiers réglementaires ? Au regard des données climatiques qui étaient celles qui étaient disponibles et qui étaient représentatives, rien ne nous laissait présager qu'effectivement, on n'avait pas une durée extraordinaire de faisabilité ou de viabilité du ski alpin. Donc, on était dans cette dynamique-là. 2013, on réalise les projets de neige de culture. Et puis, donc, moi, j'arrive aussi à la direction en 2012 et je commence à, en même temps que le projet de neige de culture se réalise, il s'agissait aussi de monter en gamme et en performance sur tous les services liés au ski alpin, notamment sur ce qui fait une station, finalement, ce sont les remontées mécaniques. On focalise beaucoup sur la neige de culture, mais qui fait un système de station, ce sont les remontées mécaniques qui pèsent près de 70% des coûts, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Donc, et en ouvrant ce chantier-là, je me rends compte qu'effectivement, il y a des remontées mécaniques qui datent des années 80, qui posent des soucis de stabilité, de sécurité, donc qui nécessitent chaque année des travaux de remise en état, mais qui s'usent anormalement. Et donc, 2016, on fait des analyses avec les techniques qui étaient celles dont on disposait à l'époque. Je dis à l'époque, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle, mais c'était que quelques années, mais les choses ont heureusement changé. Mais la conclusion de ces analyses, c'était il faut enlever les remontées mécaniques. Donc, c'était des télésièges. Il y avait 4 télésièges qui paraissaient en fin de vie, en quelque sorte. Donc, il s'agissait de les enlever puis de les remplacer par 2 autres télésièges plus performants, plus longs, plus rapides, etc. Et ça, ça représentait un investissement de 15 millions d'euros. Et en 2016, la dette du syndicat était aux alentours de 14 millions d'euros. Notre chiffre d'affaires était à peu près de 4 millions d'euros par an. Donc, ça mesure bien le risque que posait en tout cas cet enjeu d'investissement dans les nouvelles remontées. Donc 2016, c'est là qu'en fait on s'est vraiment posé la question, mais au fait, a-t-on au moins 20 ans de garantie de ski alpin pour amortir des remontées mécaniques? Parce que on sait, nous qui faisons beaucoup d'activités estivales avec les remontées mécaniques, que les activités d'été ne suffisent absolument pas à payer ce qu'il faut pour maintenir, exploiter, rembourser des télésièges. Voilà. Donc, il n'y a que le ski, fondamentalement, qui peut permettre le maintien d'un télésiège. Voilà. Donc, la question qu'on s'est posée en 2016, était celle-là. Est-ce qu'on a au moins 20 ans? 20 ans, c'est la durée d'amortissement minimale d'une telle infrastructure, hein, 15 millions. Donc, voilà la question qui a été posée en fait à ce moment-là. Et 2016, alors on avait un peu plus déjà de données sur le climat. On est d'accord que depuis quelques années, le GIEC produisait son rapport, hein, que le réchauffement climatique existait. Moi, ayant fait de la glaciologie dans les années 90, j'étais bien au fait de tout ça. Mais la difficulté, c'était d'avoir suffisamment de poids et de porter sur la réalité du réchauffement climatique, sur l'impact localement. Voilà. Parce que c'est effectivement facile de dire il y a plus 1, plus 1,5 degré de réchauffement à l'échelle globale, mais on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est pas parce qu'il y a un réchauffement global d'1,5 degré qui fait pas froid aux États-Unis alors que chez nous, il fait plus chaud. Donc on voit bien que c'est très, très variable. Donc, sans régionalisation de l'impact, on est déjà c'est difficile d'être entendu même quand on a beaucoup de données. Alors quand on en a peu, c'est très très difficile et c'est surtout pas suffisant pour dire non à un investissement. Donc 2016, on commençait à avoir des choses intéressantes. C'est à cette époque-là où a été mis en place le site DRIAS, Portail des climats, hein, donc un site mis en place par l'État avec des données Météo France. Donc c'était la retranscription à des échelles géographiques plus fines de modèles climatiques globaux. Et puis 2016, on commençait déjà à avoir de la donnée un peu plus importante aussi au niveau météorologique local. Et puis on avait, mine de rien, quelques années de fonctionnement de notre usine à neige, de neige de culture. Et donc on avait aussi de la donnée de durée, de froid, des choses très précises et très locales. Et c'est à partir de cette matière-là, en fait, que j'ai commencé à compiler tout ça et à questionner aussi mes collègues, donc mes collègues du terrain, ceux qui s'occupent de la neige de culture, ceux qui dament la neige, donc avec leur connaissance, eux, vraiment de proximité du terrain. Et voilà, on a établi en 2017 un dialogue un peu entre moi, ce que je pouvais faire dire de ces données-là et puis eux, ce qu'ils ressentaient sur le terrain, et à se mettre finalement assez d'accord sur un scénario. Très précis localement sur le domaine skiable, qui nous a fait dire attention, si on met des télésièges à ces endroits-là, donc si on remplace effectivement les quatre télésièges par deux, en fait, on risque d'avoir un hiver sur deux des télésièges qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de neige. Il n'y aura même pas, et ça à échéance assez vite, c'est-à-dire 2030, même avant 2030, on peut penser que voilà, le risque il est fort. Donc on a toujours ce niveau de dialogue entre nous de se dire ouais non bon allez si c'était ton argent est-ce que tu le ferais? Ben non, je le ferai pas. Donc ok, donc est-ce qu'on peut dire à nos élus la question est-ce qu'il y a 20 ans, on va répondre que non, il n'y a pas 20 ans. Voilà, donc c'est vraiment, et là pour le coup c'est là que le choc arrive en fait, c'est de dire ok, on fait quoi? Et donc c'est là, on est vraiment dans le cœur du sujet de ce qui a motivé cette logique de transformation finalement. Et donc là, je te parle de fin 2017. Donc la réponse est non. On n'a pas solutionné nos problèmes de sécurité et d'usure. Voilà. Donc c'est très difficile. Ça, c'est le moment, je pense, le plus difficile. Qui moi m'a personnellement mis beaucoup en difficulté, voilà, parce que j'étais à la fois, il fallait que je convainque de dire non, il faut arrêter, mais en même temps j'avais pas de solution ni technique ni financière, enfin voilà. Donc, et heureusement, alors c'est vrai que dans toutes les histoires il y a des alignements de planètes. Donc nous ça a été que fin 2017, au moment où on commençait à vendre ce scénario-là, je rencontre un maître d'œuvre en remontée mécanique qui me dit je veux développer une méthode analytique nouvelle, justement sur des infrastructures un peu anciennes, pour bien cerner ce qui se passe en termes de stabilité. Il avait développé, des modèles de déformation des structures qui étaient déjà utilisés dans le bâtiment et les ponts. En fait, c'est du traitement du signal électromagnétique. avec de la modélisation des formations de structure. Donc, c'était déjà éprouvé dans le domaine du bâtiment, mais ça n'avait pas été appliqué à des infrastructures type pylônes de remontée mécanique. Et j'ai proposé ça aux élus qui ont accepté, même si c'était un engagement financier pas négligeable, à 180 000 euros. Et on a fait toute cette investigation pendant l'hiver 2018. Là aussi, c'est un facteur important, c'est l'implication des techniciens de remontée mécanique, ne serait-ce que dans la pose des capteurs sur les pylônes, dans l'explication sur le terrain, c'est quoi ces boîtiers-là, qu'est-ce qu'on va faire avec, c'est quoi les courbes, c'est quoi tout ça. Donc, prendre le temps, effectivement, de les impliquer. Et pour arriver au printemps-été 2018 avec les vraies raisons des instabilités qui venaient plus des massifs béton que des structures métalliques. La solution technique, c'était de remplacer les massifs béton. Et on pouvait garder nos pylônes métalliques et en adaptant une maintenance suffisamment approfondie en termes préventifs, alors finalement, on avait de la visibilité à plus de 20 ans sur ces appareils-là. Mais on avait quand même posé le côté on va continuer avec nos vieux appareils. Donc, le rêve de nouveaux appareils, c'est-à-dire la culture domaine skiable qui est toujours dans le renouvellement et dans l'augmentation permanente du service client, toujours plus vite, toujours plus confortable, etc. Nous, c'était pas le cas. Et puis, en plus, on avait injecté le virus de la fin du ski. Et ça, c'était fin 2018. Et là, il y a eu un temps encore assez dur d'acceptation. Dire, on n'a pas vraiment le choix. Ça s'est traduit comme ça. On n'a pas le choix. Donc, OK, on y va. On y va pour nous. On sait à peu près où on va. Mais là, on est OK. On est en train de parler de la fin du ski. Qu'est-ce qui va se passer si jamais, dans moins de 20 ans, on doit arrêter le ski alpin sur Métabier? Une période un peu de flou. Et puis aussi une attente forte à dire, si on imagine la fin du ski, on fait quoi à la place? C'est tout de suite cette envie de remplir ce vide potentiel-là qui s'ouvre. C'est un peu angoissant de dire, non seulement on va mourir, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. Enfin, c'est métaphysique un peu le truc, ce qu'il y a après la mort. Mais là, c'était vraiment ça. Et c'est cette volonté de tout de suite de dire, il faut absolument faire quelque chose derrière. Et bien sûr, tout de suite vient à l'idée les trucs classiques, la diversification. Donc, comment on fait plus d'activités non dépendantes de la neige en utilisant les remontées mécaniques? Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que quelles que soient les activités qu'on pouvait imaginer, rien ne pouvait remplacer l'économie du ski. Donc, voilà. Et tout ça, ça nous a permis de dire, en fait, on ne sait pas. Et c'est peut-être que c'est pas grave, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on est mort là tout de suite. Visiblement, on a encore 10, 15 ans. Par contre, ce qu'on vous propose, alors quand je dis vous, c'est mon président et moi, c'est-à-dire vraiment mon président là, pour le coup, président du syndicat, Philippe Alpi, a joué un rôle déterminant dans le portage, c'est-à-dire la posture de l'élu capable de dire, en fait, on va vers la fin du modèle, on ne sait pas exactement vers où on va, mais ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ce qu'on vous propose, c'est d'y travailler, c'est tout simple. Mais c'est de ne pas répondre rapidement à la question, mais c'est de se mettre en marche, simplement. Voilà, de dire, on va y travailler. Et c'est comme ça qu'on a mis en place une ingénierie dédiée en se disant, j'ai tout de suite dit, faut pas se leurrer, il y a un chantier. C'est pas de temps en temps qu'on va regarder le truc, on va pas aller dans l'effet catalogue et se dire il y a des tyroliennes, il y a tout ça, il y a OK. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, on va aller toucher le modèle économique. Donc, on a proposé de mettre en place une mission d'ingénierie et de financer cette mission d'ingénierie par le reversement d'une part de la taxe sur les remontées mécaniques. C'est une taxe qui est perçue sur le forfait de ski alpin et qui est versée aux communes où il y a les remontées mécaniques et aux départements. Donc, on a écrit une convention avec les communes et le département de 3 ans renouvelables une fois. Donc là, on est dans la période renouvelée, pour qu'ils nous reversent 60% de ce produit. Ça a permis, moi, de m'extraire du coup du rôle de directeur de station qui gère l'exploitation de recruter un adjoint au syndicat qui est devenu directeur de station, donc Sylvain Philippe, et moi qui me suis dédié depuis donc 2019, depuis début 2019, à cette ingénierie de transition. Voilà. Donc, l'ingénierie de transition qu'on a posée dès le début, ça a été de, déjà, sur le périmètre station, c'était quoi le champ des possibles? Donc là, effectivement, j'ai investigué tout ce qui pouvait être réaliste en termes de diversification, parce que oui, mais c'est une diversification qui prendra le relais quand le ski s'arrêtera. Donc, c'est de projeter l'image du coup d'après, et là, il a fallu un peu contrer les aspirations à vouloir, entre guillemets, disneylandiser la montagne, c'est-à-dire mettre le maximum de choses en hauteur pour obliger les gens à utiliser les remontées mécaniques pour monter. Ça a été relativement facile parce qu'on est sur un massif où la biodiversité est très riche, et puis surtout, on n'est pas les seuls, en fait. Il y a beaucoup de pastoralisme et puis d'exploitation forestière, donc très vite, ça a réduit le champ des possibles. Donc, j'ai projeté un chiffre d'affaires potentiel optimal à terme, divisé par 4 ou 5, celui qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai en même temps essayé d'estimer ce que était le poids de l'économie du domaine skiable pour l'ensemble de l'économie touristique. Effectivement, c'est de l'ordre de la moitié. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et si effectivement, même avec des activités qui remplacent physiquement, en tout cas, le ski alpin, eh bien, j'ai dit attention, même avec ça, on risque de perdre 40% de l'économie touristique. Donc, en gros, on va quand même faire effondrer l'économie. Et la porte de sortie, finalement, c'est pas de rester sur le périmètre de la station, mais c'est d'élargir ce périmètre et de travailler à une échelle territoriale beaucoup plus large. Et j'ai donc plutôt proposé que l'ingénierie qu'on portait, une fois qu'on avait dessiné l'avenir du périmètre domaine skiable, l'avenir du domaine skiable, c'est de dire on continue le ski tant qu'on peut en faisant de la maintenance appropriée, et puis on transforme ce qui est transformable, mais sans exagérer, parce que de toute façon ça ne servira à rien, puis c'est pas possible. Donc transformer ce qui est transformable, c'est notre luge qui était une luge qu'on pouvait utiliser que l'été, on l'a transformée en luge sur rail. On a continué à faire des pistes VTT, mais ça y est, on a notre périmètre qui est figé parce qu'on ne peut pas s'étendre plus que ça contre l'exploitation forestière du pastoralisme. Et puis là, le dernier maillon, c'est de déconstruire tous les bâtiments du front de neige qui sont des bâtiments assez anciens, assez énergétiques, et de faire un seul bâtiment où on regrouperait tous les opérateurs outdoor pour pouvoir créer une espèce de pépinière dans laquelle, on pense que en agitant tout ça, va se créer des choses nouvelles qui vont potentiellement, en tout cas, qui feront vivre autrement les opérateurs. Et puis, l'autre volet, c'est d'élargir cette ingénierie au pays du Haut-Doubs. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, l'histoire est un peu longue, mais on arrive aujourd'hui.
Avant qu'on discute de comment on embarque en effet ce territoire et ses habitants, j'aimerais bien revenir un tout petit cran en arrière au moment où... ou en tout cas, on va dire ce groupe, donc toi, le syndicat mixte, le président, a décidé de passer d'une culture de l'investissement à une culture de maintenance. Il y a cette décision qui est prise d'arrêter d'investir. Mais en effet, tu as parlé donc de toi qui étais aux premières loges, de ton président. Mais comment ce petit groupe stratégique s'est mis en place? Comment est-ce que c'était des réunions aussi un peu à huis clos? Parce que si ça sortait et qu'on disait ça y est, on ferme la station, ce poison, comme tu as dit, qui s'était un peu instillé dans la tête, j'imagine, de certains élus, etc. Voilà. Comment on arrive stratégiquement à faire qu'un petit, un peu un cheval de Troie, quoi?
Ouais, j'aime beaucoup cette idée du cheval de Troie. C'est vrai que moi, la première fois, c'était fin 2017, où je montrais un peu des courbes qui inversaient la tendance à un groupe d'élus. Alors, on a un bureau d'exécutif, donc c'est dans notre gouvernance, on a 6 élus du département et non pardon, 7 élus du département et 6 élus du territoire. Et de ces 13 élus, on en extrait 9 qui font partie du bureau de l'exécutif. Donc c'est cette petite cellule-là qui a été associée avec les techniciens, on devait être 4 ou 5, donc un petit groupe en configuration bureau de l'exécutif du syndicat mixte. Et les bureaux, en fait, sont vraiment des réunions de travail. On a le droit, il n'y a pas de délibération. C'est l'endroit où on discute le bout de gras, on peut Voilà, et c'est vraiment l'endroit où on peut discuter. Donc ça, c'était la première fois que j'ai posé des graphiques qui n'étaient pas très beaux. Ils m'ont dit, non, mais ça, tu ne le présentes pas. Non, non, mais ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir, ce n'est pas possible. OK, bon, ben, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous le ressortirai quand vous serez prêts. Hein, voilà. Donc, et jusqu'à un point où… alors, la force que j'avais et qu'on avait, c'est que j'avais travaillé ces scénarios climatiques avec mes collègues de terrain. C'est-à-dire, je les ai pas sortis comme ça de mon côté. Je les ai confrontés. J'ai vérifié que j'y allais en mode « Et si je dis ça, est-ce que je raconte des conneries d'après vous ?» Voilà. Et l'échange venait comme ça. Voilà. Et dire ah ben non mais moi ouais mais ça aussi je le constate aujourd'hui déjà à cet endroit-là c'est difficile de faire de la neige de culture aujourd'hui alors t'imagines dans 5 ans ça va s'empirer on est d'accord ok donc c'est ce genre de dialogue qui a permis d'avoir un message de technicien en fait auprès des élus et c'est pas un message qui venait de l'extérieur donc effectivement ce huis clos il a été je pense assez essentiel pour passer ces caps difficiles de on peut qualifier un peu de deuil, quoi, d'acceptation. Donc, mais ça, quand même, c'est un processus qui a mis quand même un an. Et je pense que la clé de réussite, c'était donc d'une part que il y avait les professionnels qui étaient impliqués dès le début dans la construction de la réalité, parce qu'en fait, c'est ça, hein, ce qui s'est passé, c'est on a construit notre réalité. Et ça, c'est, je le sais maintenant, je le savais pas à l'époque, mais que dans une organisation. Il faut pas croire que les gens adhèrent comme ça spontanément à un objectif commun. Ils se construisent un objectif. Ils se construisent à partir de compromis qu'ils peuvent faire, etc. Donc c'est hyper important que cette construction et cette réalité, elle n'est même pas obligée d'être réelle entre guillemets. C'est notre réalité puisque finalement personne ne sait ce que va être le climat exactement dans 10 ans. Donc, c'est une intuition partagée, une intuition collective, etc. Donc, ça, c'est première étape. Deuxième étape, c'est que, effectivement, de renoncer à des investissements, ça a renvoyé à presque une culture de progrès industriel. Et on disait, on est des ringards. Et souvent, moi, dans ces groupes de travail, mes élus disent, on manque d'ambition. En gros, on est des bras cassés, alors que dans les Alpes, ils font ça. Même, regardez, les stations d'à côté, ils vont investir des super. Enfin, c'est la course à l'échalote. Hein. Il faut faire mieux que l'autre, il faut avoir les derniers télésièges, etc. etc. Donc, ça pouvait paraître comme on n'est pas des bons professionnels. On n'est pas des. Voilà, on est des ringards, on n'est pas des bons professionnels. Et nous, là, on a complètement inversé la tendance, c'est que, justement, moi, j'ai grâce un peu au développement de cette méthode analytique, déjà on repositionnait les choses en disant mais non, on est en train d'innover dans notre champ d'intervention. Ok, on travaille avec des vieux machins, mais dans ce champ-là, eh ben on va innover et on est en train d'innover. Et non seulement on va innover, mais en plus on va développer notre créativité parce que c'est beaucoup plus difficile de maintenir des vieux appareils que des appareils neufs. Il faut être vachement plus inventif. Et en fait, on devient des artisans. Et moi, en fait, quand j'ai discuté avec le maître d'œuvre qui me proposait la méthode, j'ai dit, écoute, moi, j'ai besoin d'un artisan. J'ai pas besoin d'un maître d'œuvre qui me vend du rêve. Je veux pas ça. Enfin, je veux quelqu'un qui travaille avec la matière telle qu'elle est. Et c'est sans doute plus difficile. C'est sans doute plus difficile. Et en fait, en tout cas, moi, j'ai grossi le trait en disant c'est vachement plus ambitieux de maintenir des vieux appareils avec tous les défauts qu'on leur connaît et garantir des niveaux de sécurité, de performance, malgré tout. Et du coup, alors, moi, j'avais déjà mis en place depuis 2012, quand je suis arrivé, tous les parcours professionnels. Moi, je suis arrivé et l'organisation était moribonde, il n'y avait pas de fiche de poste, il n'y avait pas d'organigramme. Donc en gros, j'ai dû tout construire et c'était plutôt une chance finalement parce que j'ai pu tout de suite dire voilà c'est quoi nos métiers, quelles sont les compétences qu'on embarque, etc. Et j'ai créé un poste de responsable ressources humaines, il n'y en avait pas avant. On est une structure, on est à peu près 50 équivalents habitants, équivalents temps plein. Donc j'ai créé cette fonction de ressources humaines en 2014. Et en fait, pour consolider un peu des parcours professionnels et revenir en fait à l'essence des métiers. C'est-à-dire qu'un exemple, quand avant, allez, en 2010, quand on questionnait les salariés de la station, tu fais quoi? Ils disaient, bah, je travaille à la station. Ils ne savaient même pas définir le métier qu'ils exerçaient à la station. Il n'y avait pas cette notion de métier. Et nous, on a vraiment travaillé sur les métiers. Voilà, tu es électromécanicien, tu es chauffeur de dameur, tu es hôte d'accueil, etc. Et derrière, alors ça paraît évident ce que je dis, mais derrière, nous, on a vraiment intensifié chaque compétence et on les a développées en disant, bah, nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez le plus possible de compétences dans votre champ d'intervention, si possible, mais pas que. Et on a vraiment mis en place des parcours de formation. D'ailleurs, on a été même repéré dans la profession comme étant une des stations qui donnait le plus sur la formation. On dédie, par exemple, 3% de notre masse salariale, la réglementation, c'est 1%, mais en plus, on a formé des formateurs internes. On se qualifie d'entreprise apprenante. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous sauver, finalement. Et je suis convaincu que ça se joue dans ces champs-là, quoi, la transformation dans une organisation. Et du coup, bah, quand il s'est agi de dire stop aux investissements nouveaux, bah, valorisons nos compétences. Et effectivement, on nous dit qu'on peut maintenir nos vieux appareils à condition qu'on fasse de la bonne maintenance préventive. Bah, c'est super, on a tout ce qu'il faut. Et quand on a là où c'était très important ce passage de cette acceptation, moi j'ai proposé de faire un film où on mettait en scène à la fois les collègues, le maître d'œuvre sur la partie analytique, et puis mon président sur le récit, le discours qu'il posait. Voilà, parce que c'est lui le détenteur du récit. Et ce récit-là, en fait, c'était de dire, grâce à notre politique ressources humaines et à l'internalisation de nos compétences, on est capable, avec nos vieux machins qui étaient destinés à mourir, de continuer le ski alpin sans trop investir et en même temps anticiper sur une fin potentielle sans s'alourdir sur la dette. Voilà. Donc, on arrivait à valoriser un peu les compétences humaines et finalement à se faire passer pour des gens plutôt intelligents et innovants. Voilà. Donc, c'est un peu ce cap qui a été passé et pour mettre un peu d'accord ces élus qui nous disaient « vous manquez d'ambition ». Et c'est un peu ce point de base. On a joué sur le même ordre de grand. Enfin, c'est un peu les combats de coq, ça. Ah, tu me dis que je suis pas ambitieux, tu vas voir si je suis pas ambitieux. Voilà. Donc, on a un peu ce registre-là. Mais ça marche, quoi. Au bout d'un moment, ça marche. Mais est-ce qu'on avait le choix? J'en sais rien. En tout cas, ça a marché jusqu'à se dire, bah, effectivement, on n'a pas le choix et on sait qu'on a les équipes pour faire. Voilà. Et à partir du moment où cette idée-là a été acceptée dans ce petit cercle bureau, on a dit, attention, on va pas raconter le truc tout de suite. Voilà. En fait, il s'est passé 2 ans. Entre le moment où on était en petit cercle convaincu et le moment où il y a eu les délibérations, il y a eu 2 ans. Et pendant ces 2 ans, en fait, le besoin, c'était pour raconter l'histoire de l'après tant qu'on peut. Donc, sur le domaine skiable, bah, c'était on va transformer la luge, OK, etc. Et puis, bah, sur le territoire global, on ne sait pas. Mais il faudrait qu'on ait quand même des idées de, ou en tout cas, montrer que ce qu'on propose, c'est pas complètement casse-gueule. Donc, moi, ce que j'ai fait dès 2019, c'était un travail vraiment en proximité avec des parties prenantes avec qui on avait l'habitude de travailler. Donc, c'est des magasins de sport, c'est des associations, des clubs de sport, ski, trail, etc. Un gros hébergeur qui vend du séjour sportif, etc. Donc, la communauté de communes aussi. Enfin, par effet de relation, de les mettre dans la confidence de ce qui se tramait et puis de les voir comment ils réagissaient en disant ben voilà ce qui se trame. Le choc passé, ils revenaient avec des idées nouvelles. Et moi, je les ai accompagnés sur des projets qui n'avaient rien à voir avec la neige, qui étaient très concrets. C'est des produits découvertes en VTT avec une application mobile. C'est l'organisation d'un ultra-trail, non pas juste pour l'ultra, mais c'est vraiment un projet d'entreprise. C'est une fédération de clubs de sport pour faciliter le passage d'une activité à l'autre. Dans le produit de découverte VTT, en fait, c'était un commerçant qui avait l'habitude, qui s'était déjà impliqué dans le VTT, mais qui ne regardait que vers le domaine skiable. Et en fait, pour lui, travailler ailleurs, travailler avec d'autres parties prenantes, notamment du public, mais c'est l'inconnu total. Et ça fait peur. Et c'est pas du tout habituel. Et c'est là que moi, j'ai apporté de l'aide. C'est sur ce changement, en fait, d'habitude de travail et de coopération. Et à partir du moment où on a commencé à concrétiser un peu des opérations avec une diversité de types de parties prenantes, se construisait petit à petit l'idée que si on injecte la mauvaise nouvelle dans le système, le système, bien sûr, il réagit négativement, mais il y a une petite partie qui semble partante et qui semble tout de suite comprendre les enjeux et puis se dire « Ouais, mais moi, en fait, je peux déjà bosser. » Et qu'on dit « Travaillons avec ceux qui sont capables de partir. » Donc, c'est ce message-là qui a permis progressivement, en 2020, de dire aux élus, cette fois-ci du département, écoutez, voilà, ce qui se trame, en fait, ça réagit comme ça. Donc, oui, ça semble jouable quand même. Et on ne les laisse pas démunis puisqu'on assure une ingénierie derrière qui peut les accompagner. Et puis, on a consolidé le scénario climatique par un modèle ClimSnow qui est apparu fin 2019. Donc, 2020, en fait, on avait la confirmation, entre guillemets, scientifique. Et puis, en plus, on avait les premières réactions du système qui montraient que, ça n'allait pas être facile, mais c'était possible. Et puis, en plus, peut-être, on n'avait même pas le choix. Mais en tout cas, politiquement, c'était ce discours-là qu'on pouvait tenir. Et c'est à partir de l'automne 2020, là, pour le coup, on a élargi le cercle du discours en partant toujours de ce point de départ. C'est grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent dans la station qu'on va pouvoir réussir la transformation. Et c'est grâce aux femmes et aux hommes qui œuvrent pour le client largement sur le territoire qu'on va pouvoir réussir la transformation. Vraiment, ça a été ça, quoi. Donc, à partir de là, on a pu vraiment communiquer là-dessus.
C'est hyper important, enfin, et intéressant, c'est cette façon d'embarquer un territoire en passant d'un petit groupe de convaincus, en allant petit à petit voir là où ça percole, où est-ce qu'il y a des premiers moteurs qui se disent on peut y aller, c'est risqué, je suis pas sûre, c'est incertain, mais je vous suis. Donc ouais, ça c'est hyper important, surtout qu'en fait il continue de neiger aussi. Enfin, et donc il y a des hivers où il y a plein de neige, donc il faut que les gens restent convaincus que c'est pas parce que cet hiver il y a plein de neige que va rester. Donc ouais, important. Et en fait c'est des questions pièges parce que je t'en ai pas parlé avant, mais ça me fait beaucoup penser aussi à ton changement personnel, toi, dedans, parce que finalement t'es arrivé dans une station de ski où l'idée, c'était de la relancer, de mettre en place cette culture de neige. Et finalement, tu leur parles d'incertain, de transformation et potentiellement de fermeture. Donc, comment toi, là-dedans aussi, tu as réussi à faire à changer professionnellement, personnellement, pour t'adapter à ce nouveau quotidien?
J'ai découvert ce que Edgar Morin appelle « homocomplexus ». C'est-à-dire qu'on est tous rempli de plein de contradictions, d'ambiguïtés, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et c'est marrant parce que quand on m'a donné le dossier de neige de culture en 2006, en fait, j'ai donné vraiment de l'environnement, donc j'étais désingué le projet. Je vais le désinguer. Je vais montrer que c'est une absurdité. Et puis, confronté aux réalités économiques, puis commença un peu à connaître le milieu des domaines skiables et à découvrir qu'il n'y avait pas que des méchants. je me dis, mais de quel droit, en fait? Et puis, t'as pas d'argument, en fait. T'as pas les données climatiques, t'as pas les, bien que t'aies l'intuition, ou c'est une fausse intuition, en fait, parce que, il y avait un besoin et c'était très difficile de le contrer. Donc, je me suis laissé aspirer un peu par cette euphorie parce que, en plus, moi, j'arrivais avec, j'étais le sauveur de la station. Donc, j'ai fait les travaux et je me suis pris dans cette euphorie, très agréable. En plus, les trois premiers hivers 2012-13, 13-14, 14-15 ont été des très beaux hivers. On était vraiment dans le truc. Mais c'est super, c'est reparti, c'est génial. Et il y avait une espèce d'insouciance pour le coup, très agréable. C'est vrai que la descente a été un peu difficile. elle a été très difficile et elle m'a presque remis en perspective de ce que je pensais avant. Me dire, mais en fait, tu l'avais finalement pensé, mais tu as goûté au truc, au truc super sympa, et tu comprends du coup pourquoi on peut être dans ce plaisir finalement, et dans cette joie-là, et dans. Il y a beaucoup de belles valeurs. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles, mais où j'ai vu de la belle solidarité. J'ai vu des valeurs humaines exacerbées quand même dans ce milieu. Je ne peux pas le rejeter comme. Enfin, je ne le rejette absolument pas d'ailleurs, mais. Et je venais moi un peu aussi d'un milieu de la conservation de la nature où globalement c'est très triste. C'est très triste et très frustrant parce qu'on met beaucoup de moyens pour des résultats qui ne sont pas très bons. Et moi, j'en avais un peu marre de cette culture-là qui s'interdit d'aller regarder le volet économique comme si c'était le diable en face. Moi, souvent, je dis, bah, quand j'ai pris la neige de culture, je suis passé du côté obscur de la force. Et c'est vrai, mais je me suis mis plein de gens à dos. Ouais, t'es un traître. Enfin, c'était presque, voilà. Mais en même temps, je me dis, mais ces gens-là, je regarde un peu leur parcours et je vois qu'ils n'ont pas changé. Et ils sont toujours dans leur certitude de que ce qu'ils font, c'est bien. Et en même temps, ils n'ont pas réussi à passer à l'échelle. C'est-à-dire, par exemple, je vois sur la restauration des tourbières, qui est un enjeu énorme chez nous, c'est pas l'argent qui manque. C'est les compétences pour faire ce type de travaux. C'est, les négociations foncières qui ont du mal parce que c'est tout de suite de l'opposition. Bref, il faudrait sacrément qu'ils adoptent les mêmes façons de faire que nous. Et en même temps, bah, ils sont fermés, ils sont réfractaires à l'ouverture sur entre guillemets, les méchants. Quoi. C'est un peu cette polarité-là que je trouve. Et du coup, moi, je pense que cette expérience, elle m'a affranchi de ces polarités-là en disant vraiment, c'est la rencontre de tout ça quoi, qui provoque la solution. Donc, je suis content d'avoir vécu un peu cette insouciance et cette euphorie un peu de ce qu'était l'endomètre fiable et de vraiment rencontrer ces gens qui travaillent et qui, alors, parfois sont dans, mais comme partout, hein, parfois sont dans l'excès de la défense d'un modèle, évidemment, pour des intérêts parfois pécuniers, mais aussi pour un attachement culturel fort qu'on peut pas nier. J'ai bien vu tout ça. Moi, je ne suis pas de la montagne. Je suis pas de la montagne. J'ai été accepté. C'est peut-être aussi une chance, c'est que j'ai pas un attachement viscéral à. J'adore la montagne. Je suis accompagnateur en montagne aussi. J'ai cette culture-là. Mais du coup, quand il s'est agi de commencer à imaginer la fin, moi, ça m'a pas fait plus mal que ça. Ça m'a fait. Ce qui me faisait mal, c'était que vont-ils devenir en fait. C'est pas pour moi. Moi, c'est pas mon sujet en fait. Je me suis jamais trop posé la question de voilà, je suis fonctionnaire à la limite. Enfin, mais ouais, c'est malheureux à dire, mais j'ai un parachute. Voilà, et ma passion de la montagne, elle se traduit pas par la remontée mécanique. Ma passion de la montagne, elle se traduit par la rando, elle se traduit par des pratiques non mécaniques. Donc voilà, moi personnellement ça me touchait pas plus que ça, si ce n'est effectivement, c'est passionné de voir que leur. Donc, j'avais une espèce de. Ouais, je me sentais un peu responsable de ça, de dire, ben, en fait, c'est moi qui l'ai. Alors, j'étais à la fois le porteur de la bonne nouvelle avec la neige de culture, et puis je devenais le porteur de la mauvaise nouvelle. Donc, ça, oui, ça, c'était un peu plus difficile. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était. Moi, qui avait la mauvaise nouvelle, j'ai joué un peu de circonstances favorables fin 2018, justement, pour proposer ce pôle d'ingénierie et m'y positionner. Et donc, de lâcher mon rôle de directeur de station, qui, pour moi, n'avait pas plus de sens que ça. Voilà, c'était pas parce que je suis pas de ce milieu-là, et pour moi, ça représentait pas grand-chose, en fait. Par contre, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est ce processus de changement-là qui s'annonçait. Il semblait assez difficile, mais qui m'intéressait. Voilà, qui m'intéressait profondément. Et du coup, je me suis fait très plaisir à porter assistance un peu à d'autres parties prenantes du système et à prendre plaisir à voir comment ils étaient en retour de proposition. Quand j'ai accompagné ce magasin de sport à l'aider à, et quand il a investi lourdement dans des nouveaux parcs de VTT pour ce projet-là et que ça a marché, j'étais super content. Moi, je m'identifiais à lui. C'est vraiment, je me dis, waouh, purée, super, on a réussi quelque chose. Et très vite, voilà, je me suis pris à ce jeu-là aussi, de dire qu'il y a un autre champ des possibles Et ensuite, en fait, il y a une espèce de synthèse qui s'est faite. Parce que moi, si je suis rentré dans les collectivités et que j'ai commencé par l'environnement, c'est que j'avais cette conscience écologique et je me dis, bah, peut-être que ce que j'ai fait en passant du côté obscur de la force apporte peut-être plus de réponses, en tout cas pour moi, à ce que j'espérais faire en rentrant dans le domaine de l'environnement, en fait. Et parce que j'ai touché à ce qui fait notre société, les modèles économiques, en fait. Et je suis allé me frotter à ça et aux résistances profondes, etc. Donc, ouais, ce passage, il a été pas simple. Mais voilà, maintenant, il y a vraiment. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que dans mes équipes, là, alors je ne suis plus en rôle manager direct, puisque j'ai mon adjoint qui est vraiment dans ce rôle management. Et il y a vraiment ce côté, chaque jour de neige est un plaisir. C'est peut-être le dernier, presque cette idée-là, en tout cas. Quand les salariés me disaient, il y a encore un an ou deux, mais qu'est-ce qu'on va devenir, je leur disais, je leur dis toujours, j'en sais rien, mais vous voyez bien que nous, on a mis les métiers, les valeurs humaines au cœur du truc. Et on n'a pas fait que le dire, on l'a montré, on a. Et sans doute que oui, il n'y aura plus de remontée mécanique, mais ce qu'on est en train de faire avec vous sur l'enrichissement de vos compétences, et surtout aujourd'hui, finalement, notre ambition, c'est de vous donner les compétences pour apprendre à apprendre, en fait. Et quand aujourd'hui, ma responsable RH, en fait, elle est une des chevilles ouvrières d'un groupe de travail avec tout un tas de socioprofessionnels, restaurateurs, hébergeurs, etc., de l'ensemble du territoire sur la thématique des métiers. Et elle apporte son expertise au sein de ce groupe-là. Donc, les passerelles sont déjà faites. Et pour moi, je vois que cette mécanique-là, elle fonctionne et c'est la clé un peu de tout ça. C'est de là que ça va, que les nouveautés vont émerger, que les adaptations vont émerger. Aujourd'hui, je me dis, c'est dans ces sujets-là que les transformations vont se faire et notre équipe, elle est pleinement connectée au reste du territoire, même si c'est pas toujours consciemment, mais en tout cas par leur chef de file qui est la responsable ressources humaines, c'est fait, c'est connecté. Quoi. Et cette histoire-là, elle est déjà en place. Voilà. Donc je me dis bon, cool. Et quand je vois, on va dire, avec quelle détente on parle de tout ça, de cette fin du ski et qu'on en rigole, parce que voilà. Je me dis, on a quand même une grosse capacité de résilience collective. Quoi. Voilà. C'est assez chouette.
Peut-être pour finir, je sais que tu as mis en place pas mal de méthodes, notamment pour avoir ces discussions avec les acteurs du territoire, mais on pourrait peut-être revenir sur, de manière plus générale, au-delà même des stations de ski, qu'est-ce que toi tu retiens Alors, ça peut être des méthodes, des outils, des façons de travailler. Quelles sont les généralités finalement qu'on peut tirer de cette expérience propre et qui pourrait servir à d'autres territoires pour mener cette transition, cette redirection, on l'appelle comme on veut.
Alors moi, ce qui me paraît assez évident, c'est que tout est fait dans le système pour que rien ne change. Et c'est systémique puisque tout système cherche à retrouver son état initial. En partant de là, ça veut dire que même les bonnes intentions sont pas bonnes. Si je prends l'exemple de, j'ai découvert que toutes les institutions bien pensantes, avec des dispositifs d'appui, souvent d'investissement, etc., en fait, sont dans le solutionnisme aussi et ne sont pas dans la complexité. Il y a cette notion pour moi qui est fondamentale, c'est de se dire la transformation, c'est complexe. Mais c'est complexe au sens systémique du terme, c'est-à-dire qu'on peut pas utiliser les méthodes qu'on a pratiquement tous appris, c'est-à-dire essayer de comprendre un problème et puis d'y apporter des solutions. De planifier les choses, d'aller voir ce qui se fait ailleurs parce que on pense que ailleurs ils ont eu les mêmes problèmes, etc. De mettre de l'expertise supplémentaire jusqu'au moment où on comprendra les choses. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude en général de faire. C'est de se dire, on a un problème, on va mettre le maximum d'expertise, on va essayer de comprendre. La complexité, c'est de partir du postulat qu'on ne comprendra jamais comment ça fonctionne. parce qu'il y a des interrelations qui sont cachées et qu'on ne peut pas voir et que même à force d'expertise, on n'arrivera pas à voir. Donc, nous, ça se traduit un peu dans les… Moi, je le vois dans les groupes de travail que j'anime, notamment le dernier sur les métiers, là, c'était… On commence à pouvoir travailler ensemble à partir du moment où, au sein du groupe, on s'exprime clairement sur le fait de dire ben, « on ne sait pas, on est incompétent ». À partir du moment où on admet qu'on ne sait pas, ouf, ça, allez, ça y est, il peut y avoir quelque chose qui peut se construire. Et après, en fait, le danger aussi dans les habitudes, c'est que ben, on veut remplir tout de suite le vide qu'il y a derrière, quoi, apporter très vite une solution. Et, ça veut, et nous, on, en fait, moi, je me rends compte que c'est pas parce que qu'on n'impose pas une solution ou qu'on suggère une solution qu'il ne se fait rien. Au contraire, en fait, moi j'observe que je l'ai vécu cette petite capillarité avec des parties prenantes proches. Je le vis là dans le groupe de travail avec les métiers. Je l'ai vécu aussi avec des accompagnateurs en montagne qui se sont positionnés sur leur rôle pour emmener les clients en pleine nature et ça pose des problèmes de biodiversité. Et je vois qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui émerge. Qui n'osent pas forcément s'exprimer toujours parce que justement le contexte n'est pas très favorable. Parce que quand il y a quelqu'un qui va exprimer une idée, comme beaucoup de gens dans le groupe se disent compétents, cette idée, elle paraît farfelue, elle paraît à côté de la plaque, elle paraît trop marginale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de baisser le niveau collectif de sentiment de compétence pour que justement la moindre idée paraissent intéressantes. Après, le danger dans cette créativité-là, c'est que ça reste de la créativité et que ça ne devienne pas création. Pour que ça devienne création, il faut que ça s'ancre. Donc, il faut… et souvent, c'est un peu ce que j'observe dans les transitions, c'est que des gens ont compris plein de choses, mais ils se confrontent au système qui est tellement difficile qu'ils s'en extraient et ils se marginalisent. Donc, ça devient des communautés. Alors, très bien, c'est très inspirant, etc. Mais il manque le lien avec le truc qui nous empêche, en fait. Donc, la vraie clé, c'est de garder cette passerelle entre un système qui ne veut pas changer et puis des microsystèmes qui sont en train de bouger et de les faire s'interconnecter. Donc, c'est les bonnes idées qui émergent, mais ne pas les laisser partir comme ça, ou en tout cas les laisser connecter. Et moi, voilà, ça s'exprime vraiment dans ces groupes de travail où les gens mettent en place des choses, mais restent finalement dans cette communauté parce qu'ils ont trouvé une place où ils ont, mon obligation vis-à-vis de vous, c'est que chaque heure passée dans cette configuration doit vous être utile. Si ce n'est pas utile, vous ne venez pas. Et puis, vous pouvez ne pas venir un moment et revenir. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit utile. Donc, je trouve que on est dans la complexité, c'est-à-dire… On est dans un espèce d'intuitif ou d'intuition collective. On se met d'accord sur une action qui nous semble être levier, être favorable. On la met en œuvre et on regarde comment le système fonctionne et on passe à la suite, en fait. Donc, c'est vraiment ce côté je fais, j'observe, etc. Donc, l'ingénierie que nous, on porte, elle a vraiment cette vocation à être à côté, en fait, du système. Elle n'est pas dedans véritablement. Nous, on n'impose rien, on fait émerger des choses. Donc, on utilise évidemment des méthodes de l'intelligence collective, mais ces méthodes-là, elles sont utiles que s'il y a un vrai ancrage et que, ça reste, sinon, c'est la foire au post-it, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a cet ancrage nécessaire. Donc, il y a plein de méthodes, effectivement, d'intelligence collective, mais je pense que la clé, c'est de les utiliser avec ce regard systémique de la complexité. Et pour ça, il faut réussir à positionner une ingénierie qui ne soit pas une ingénierie de projet, une ingénierie trop technique, mais qui ait quand même cette culture de la technique, sinon elle est à côté, mais qui soit une ingénierie qui soit en capacité de regarder le système et intervenir là où c'est prêt, là où c'est mûr, là où il y a une opportunité, là où les gens veulent aller, ont envie d'avancer, et ne pas vouloir convaincre tout le monde. Là-dedans, c'est vrai que la place du leader, elle est parfois difficile à trouver. Et c'est vraiment chaque réussite doit permettre d'être retracée et racontée en valeur, parce que le leader permet des choses. Il permet des choses et il va exprimer le résultat. Voilà. Donc, rien que ça, ça doit se valoriser. et ça doit permettre de cranter un certain nombre de choses pour le collectif. Voilà. C'est très théorique ce que je raconte. Je sais pas si je suis, c'est, mais enfin voilà, si j'avais quelque chose à dire sur on va dire les moyens dont on doit accorder aux transitions, à la transformation, ce sont pas des moyens. Alors il y a de l'investissement nécessaire, on est d'accord, mais attention au solutionnisme. Mais c'est surtout des moyens d'ingénierie et attention à quelle ingénierie on parle, parce qu'on fait tout de suite de l'ingénierie de projet ou de planification qui sont pas les bons niveaux en fait. Il faut de l'ingénierie de coopération et de coopération dans là aussi. Attention, c'est pas, il suffit pas de mettre les gens autour de la table quoi. Il faut mettre les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits. Avec, voilà. Avec donc c'est là qu'il y a un peu de moyens à mettre et un peu peut-être d'expertise, mais d'une expertise de cette systémique-là.
Non, mais c'est, enfin, si, c'est assez clair parce que c'est ce qui paraît en effet assez important, sortir de ce tech solutionnisme qu'on nous vend un peu dans tous les sens, auquel on est habitué, et en fait, sans attendre la bonne solution, la bonne idée, mais les laisser tout émerger de chacun à son niveau et de leur donner une chance en expérimentant. Et puis, si elles s'ancrent, tant mieux. Si elles ne s'ancrent pas, on change autre chose. Et enfin, voilà, on essaye différemment, quoi. Donc, ouais. Merci beaucoup, Olivier. On mettra toutes les vidéos dont tu as un peu parlé au début pour présenter le territoire et puis puisque vous mettez en place dans la description du podcast. Puis, c'est qu'un premier échange puisque, en fait, ça bouge encore pas mal à Métabier. Merci.
Oui, en fait, la clé du truc, c'est que c'est le mouvement. Voilà. Tant qu'on est en mouvement, c'est bon.
On va finir sur cette note très positive. Merci.
Merci.